Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques minutes, nous recevrons Sylvie Neve qui nous présentera son poème provisoire. Puis dans 30 minutes, avec Guy, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, et Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1110. Jean au micro, salut. Roberto Fonseca, extrait de son nouvel album Yo, avec Mike Ladd.
She was a daffodil peddler, dallying in petals, as only a florophile can. And I saw her on the brink of the water, where the waves lift the earth, wet the sands. There have been a thousand boats that have crossed this water. We have lived through a million storms. And with all the thunder that has crashed the buildings, set fire to trees, and scorched this earth, we are still here and are learning patience despite our foibles and the human curse. And yes, maybe, just maybe, we can return the land of animals. Four-footed walkers and we two-footed creatures can find a way to be as wise. And these cities, they can grow flowers. And these machines, they can disappear. Yes, indeed, my good friends, these are our choices. If we see the pedal pusher in front of us there, and she's here, walking on the shore, so pay attention. And in music.
They will know us for what we were, what we are, and what we will be in the future for.
Roberto Fonseca avec Mike Ladd, Radio PFM 99.9, magazine Tumulte, le poème provisoire de Sylvie Neve.
Bonjour, Tumulte. Aujourd'hui, quatre petits extraits d'un travail tout frais, un recueil en cours qui s'intitule « Le corps à venir ». Autopsie. Ah, ciel ouvert. Thorax. Trouvez la plume. Sein. Écrevisse. Cœur. Griffe. Foie. Griffe. Rein. Griffe. Ongle. Canari. Œil. Charançon. Hanche. Luxure. Poitrine. Ange ou jean. Poumon. Embellie. Ventre de femme. Christ aux yeux verts. Fibrome souterrain. Thyroïde. Module. Intestin. Peau lipu. Tulape. Brocolite et faune. Cou. Horticolite. Jambe. Hortense du genou. Ongle. Incarnéant. Pied. Phallus valgus. Peau. Mangeaison. Corps à cœur. Corps en gros. Obèse toujours. Beau, pas beau, très beau. Corps encore. Encore un effort pour être plus beau. Très beau. Élancé. Émacié. Enrobé. Dérobé. Plus gros, moins gros, trop maigre, plus mince. Trop de corps, pas assez de trous. La bande vieille peau obstrue quoi? Le corps en morceaux de musique, l'ondulation physique et poétique d'un, trop humain pour être seulement atome. Anatomie, inscription du corps par-deçà de là, le tissu de songe, en sus des organes entre eux. Une vérité du corps sort par la bouche. Organe est une lente idée.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten.
Corpus, j'ai une gynécologue, un pseudopsychiatre, un ornithologue, un occultiste, un auscultiste, un auscultiste, un neurologue, un gérontalangue, une gynéconin, un géontologue, une anesthéiste, une nève rose, un roman famille rideau, un nœud deep. Jeune encore. Proteste de la hanche, proteste du genou, proteste du gros orteil. Sculpté dans le bois. Proteste de la cheville. Proteste de l'astragale. Proteste des dents en céramique. Proteste de la jambe. Proteste du pouce, proteste de l'annulaire, proteste de l'auriculaire, proteste oculaire, proteste binoculaire, proteste auditive, proteste articule, proteste de la langue, proteste en silicone, proteste en titane, proteste en gésine, proteste ma mère, proteste ma mère, proteste encore ma mère, proteste toujours ma mère.
Blanke Torgel, pipi pipi pipi, zuka, 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 zuka. Blanke Torgel, rum, rum. Blanke Torgel, ziulen, trill, dum, dum, trill. Blanke Torgel, tikatikatum, 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 tikatikatum.
Suite du corps à venir, troisième mardi de juin. Au revoir, tumulte.
Čekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, dávno jsme oba zpět a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám.
C'était le poème provisoire de Sylvie Neve, chaque troisième tumulte de chaque mois.
Ani noc, ani já, ani jsem tady, ani tam sama, ani sama, ni bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans 15 minutes, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1, et Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. D'ici là, musique avec le Esbjørn Svensson Trio, extrait de l'album 301. le trio EST, donc extrait de l'album 301. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans un instant, le journal de Tumulte. Journal de Tumulte avec Guy, nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1, et Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. Avec eux, nous allons procéder à un échange de points de vue général sur le résultat des élections présidentielles et le début du quinquennat, sur les enjeux économiques et les mouvements sociaux en Europe, et puis nous terminerons par un éclairage philosophique sur la notion de dette. Pour commencer sur les élections présidentielles et leurs résultats et les tout débuts du quinquennat, on va lancer Guy, puisqu'il nous fait l'honneur de son retour.
Ah bah, ça, c'est trop gentil. Hein. Donc, une nouvelle ère pour Tumulte, Jean. C'est l'ère Hollande, c'est ça, non? Puisque là, officiellement, on peut le dire quand même. Hein. Il a pris ses fonctions de...
Ce mardi,
hein, donc on ne va pas dire aujourd'hui, puisque hein, l'émission est diffusée le mercredi, on le sait, donc il vient de prendre ses fonctions, donc une nouvelle ère pour Tumulte, mais je pense que Tumulte restera toujours aussi tumultueux, non? Donc, ben voilà, on peut peut-être quand même revenir, hein, puisqu'on ne s'est pas vu depuis le premier tour non plus. On peut peut-être commencer par un mot sur le premier tour, quoi, le sentiment du premier tour.
Ah bah, c'est un petit peu paresseux dans l'introduction.
Il ne se mouille pas. Hein.
Non. Mais je pense que vous étiez plus impliqué que moi dans cette campagne électorale, dans ces élections.
C'est pas inintéressant d'ailleurs de mettre en regard le premier tour et le second tour. Hein.
Merci.
Je vais faire un lot quand même, parce que sinon on risque d'être un petit peu long. Mais ça montre à mon avis, je vais parler comme les commentateurs politiques, une espèce de paradoxe de ce scrutin. C'est qu'au premier tour, le PS a fait quand même un score remarquable. Hein, ça fait longtemps que dans une élection présidentielle, mais même dans tout autre mode de scrutin, il n'était pas venu titiller les 30%. Donc on pourrait dire que d'un certain point de vue, François Hollande a réussi à faire le plein de l'électorat acquis, mais pas seulement acquis au PS, un peu plus. Bon. Et puis évidemment, l'autre grande information de ce premier tour, ça a été à la fois le très bon score de Marine Le Pen, c'est son meilleur score, enfin c'est le meilleur score du Front National dans des présidentielles, non seulement en termes de pourcentage, mais très largement en termes de voix. Donc ça, c'est deuxième leçon importante. Et puis à gauche, quand même, l'émergence d'une deuxième force politique à gauche, parce que le fait que Mélenchon ait dépassé, ait fait un score à deux chiffres, est tout de même un petit coup de tonnerre et une innovation importante dans l'espace politique. Alors c'est vrai que certains, par rapport à certains sondages qu'il annonçait à 15%, trouve que finalement c'est un échec pour lui. C'est imbécile comme commentaire. Hein.
Pas de gros mots.
Il a véritablement réussi à agglomérer sur sa campagne et sur sa candidature un certain nombre de votes qui cherchaient depuis un bon nombre d'années des débouchés politiques. Alors, donc on a un premier tour qui est finalement pas mal à gauche, on pourrait dire, mais sur lequel il manque, pour gagner le second tour, il manque toujours 5 à 7 points, quoi, pour que la gauche soit majoritaire en France. Et donc l'élection se gagne plutôt au centre, au centre gauche ou au centre droit. Et indubitablement, François Hollande a réussi à aller conquérir ses voix. Alors, est-ce que ça traduit une adhésion au projet du Parti Socialiste? Pour ma part, je ne le pense pas. Je pense qu'il a gagné ses élections sur un rejet très fort de Sarkozy, et en particulier rejet qui a contaminé largement certaines tranches de la population qui d'ordinaire sont acquises à la droite. Une partie de l'électorat centriste s'est reportée sur François Hollande, et puis une partie de l'électorat, disons, de la droite vieillissante l'a lâché aussi. Bon. Et donc, voilà, on dirait que le premier tour a été à gauche, le second, sans doute, beaucoup moins. Il a fallu composer avec une France qui vote plutôt à droite. Et il a énormément bénéficié du rejet de Sarkozy. Et on pourrait même se dire, comment se fait-il qu'il n'en a pas bénéficié plus? Parce que pendant toute la campagne électorale, il a été plutôt annoncé à 54 ou 55% au second tour. Et donc, je trouve que l'interrogation avec laquelle on reste, après ce deuxième tour, c'est comment ça se fait qu'il y avait encore autant de gens pour voter Sarkozy?
Oui, justement, il y avait une donnée qui n'était pas tellement présente dans ton intervention, Laurent, c'était quand même les scores de Sarkozy. C'est vrai que le rejet de Sarkozy a permis que Hollande soit majoritaire, mais en même temps, Sarkozy fait des bons scores.
Oui, tout à fait.
Il fait des bons scores et au premier tour et au second tour. Et au second tour, ça a une signification quand même très importante, c'est que à droite, sa ligne politique de l'entre-deux-tours, ce qu'on a dit l'entre-deux-tours de Sarkozy, cette ligne-là n'a pas été invalidée par la droite elle-même. Et ça, c'est quand même un phénomène politique très important. Et en gros, ce qu'il a voulu signifier, Sarkozy, dans l'entre-deux-tours, c'est qu'il était candidat à être le représentant d'une force politique d'extrême droite, en fait, ou extrême droitisée, en concurrence à celle qui se présentait comme alternative à elle du Front National, ce qui expliquait le fait qu'ils disent pas de ministre du Front National au gouvernement et pas d'alliance avec le Front National. Mais c'était non pas le cordon de sécurité, ou je ne sais plus comment on appelle ça.
Le cordon sanitaire,
voilà. C'était pas cette signification-là, c'était qu'il était en concurrence sur le même champ que le Front National.
Ouais, sur l'aspect rejet, peut-être. Bon, effectivement, au niveau du premier tour, on peut parler de rejet, votre rejet de Sarkozy. Au niveau du deuxième tour, bon, vu ce qui a été dit, c'est plus délicat. Hein. Il faudrait vraiment analyser le détail des votes. Mais je pense que le premier tour montre aussi, d'une certaine manière, un rejet du système politique en général. Même si finalement, j'ai été surpris, quoi. Bon, quand on additionne Hollande plus Sarkozy, hein, puisqu'on prévoyait quand même ces deux-là au deuxième tour, ils font plus de 50%. Mais il y a 50% des gens qui n'ont pas voté pour eux. Et dans ces 50%,
ils font presque 60%. Hein.
Ils font plus. C'est quoi? C'est 28 et.
28 et 27, il me semble.
28 et 27. Mémoire. Bon, 55. Hein, donc, une petite moitié des personnes qui n'ont pas voté pour eux au premier tour sont portées aussi sur un rejet clair du système politique. Hein, bon, je ne compte pas ceux qui ont voté pour Bayrou, etc., mais le vote d'une gauche plus radicale, d'extrême gauche, et puis le vote du Front National, avec justement, hein, quand on écoute les commentaires, les analyses sociologiques, hein, aussi du scrutin, un rejet politique, du système politique, avec deux déclinaisons, quoi, en fin de compte. Des gens qui sont originaires des mêmes milieux, les milieux défavorisés, milieux populaires, milieux ouvriers, qui ont pu voter soit donc pour une gauche plus radicale, Mélenchon, etc., ou qui ont pu voter pour le Front National. Et la différence, en fin de compte, elle vient d'une conscience, peut-être d'une éducation politique, d'une conscience politique, d'une formation politique, d'un engagement, d'un, 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 d'un militantisme politique. Donc des gens qui ont une culture politique, qui ont un vécu politique, de la classe ouvrière, des classes défavorisées, ont voté Mélenchon. Et ceux qui ne l'ont pas, je pense qu'ils ont voté Marine Le Pen. Quand on entend des reportages sur ce qui se passe à Hénin, peut-être on va en parler. C'est clair, parce que ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes. Ce qui est mis en avant, ce sont les mêmes choses. C'est le système. On est dans un monde injuste, pourri, etc. Et c'est quand même c'est inquiétant, et ça pose, pour moi, ça pose aussi la question justement de la formation à la citoyenneté, la question de l'école qui est centrale, parce que petit à petit, mine de rien, l'école elle éloigne d'elle les jeunes issus des classes défavorisées, les jeunes issus des classes populaires, et elle leur permet pas d'atteindre justement une culture politique, une culture citoyenne qui leur permettrait, je pense, de participer d'une manière plus lucide à la vie politique du pays. Donc voilà, ça c'est pour le rejet, mais au niveau du deuxième tour, je suis plus sceptique. Et moi, j'ai quand même été marqué par le débat entre, si on parle du deuxième tour, le débat là, entre les deux tours, là, le débat entre, je ne sais pas si vous l'avez écouté ou si vous l'avez... ou si vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai écouté. Je vais être court, Jean, t'inquiète pas. Hein. Je ne vais pas faire mon Sarkozy, mon Hollande, et puis t'entraîner dans une émission qui va déborder de trois quarts d'heure, une heure, parce que le débat était prévu pour durer deux heures, et finalement, il a duré trois heures. Donc moi, j'ai dit, je vais écouter le début pour voir un petit peu, quoi. J'ai écouté à la radio, et j'ai été pris par le truc, parce que j'ai trouvé que y avait quelque chose, quoi. Ça faisait pas la communication pour communiquer, ça faisait pas un factice, et il y avait vraiment quelque chose des deux côtés. Bon, j'ai eu peur au début, hein, parce que Hollande, je trouve qu'il a très mal débuté ce débat. Il a répondu complètement à côté de la première question, hein, qui était qu'est-ce que vous attendez, il sert à quoi ce débat pour vous. Pour moi, il n'a pas répondu à la question, alors que Sarkozy, il a répondu à cette question. Donc j'ai eu, sur le coup, j'ai eu peur, il va se faire bouffer comme c'était annoncé, quoi. Et puis finalement, dès la deuxième, troisième intervention, on a eu quand même un combat, quoi. Hein, et donc on est revenu quelque part à un combat droite-gauche, hein, même bon, si je sais pas ce que ça va donner, hein, l'élection d'Hollande, mais j'ai ressenti ça. Alors je sais pas si ça a été le cas pour vous.
Philippe, une réaction ?
Oui, non, moi, j'ai pas eu tout à fait cette impression-là, quoi. C'est-à-dire que autant, oui, il y avait un débat de style, on va dire, de façon d'être, etc. Autant sur un certain nombre de questions, il m'a semblé que c'était pas sur le fond, ça allait pas très loin. Bon, je prendrai l'exemple du nucléaire, qui par exemple est assez évident, quoi. Le débat a porté uniquement sur est-ce qu'il faut fermer une centrale ou pas, quoi. Quasiment. Hein. Bon, donc c'est quand même. Donc du coup sur le contenu, et après, moi je voulais revenir. Il me semble qu'effectivement la question du débat du second tour, c'est ce qui s'est passé à droite, c'est-à-dire que effectivement le fait que Sarkozy ait mené une campagne qui est une campagne sur le terrain construit par l'extrême droite. Alors c'est peut-être ça, je pense, qui peut du coup donner aussi cette impression-là, c'est que il a quand même joué là-dessus, et j'ai l'impression, moi, qu'il s'est passé pour le front de gauche, au fond, le front de gauche a unifié un peu tout ce qui était éclaté un peu partout, quoi, de la gauche radicale depuis des années. Et finalement, Marine Le Pen, a construit, à l'autre bout de l'échiquier politique, quoi, a construit aussi une forme d'unification, etc. Ce qui veut dire qu'elle a aujourd'hui une possibilité de peser énormément sur la droite, puisque le cordon sanitaire n'existe plus, ce que disait Jean tout à l'heure. Je crois que ça va être une donnée très très importante de la période qui vient, quoi.
Oui, juste peut-être pour nuancer un peu sur les scores, c'est vrai qu'on a parlé du score important de Marine Le Pen au premier tour. En même temps, en pourcentage, le score de son père en 2002, ajouté aux voix au pourcentage de Maigret, c'est à peu près l'équivalent. Mais la signification politique n'empêche, elle est là, c'est que la mutation, entre guillemets, le passage de témoin. On sait que l'importance du chef, quand même, dans ce genre de parti, elle a réussi. Et donc, c'est une confirmation de l'implantation et de l'existence du Front National. L'autre nuance aussi, c'est sur le score de Mélenchon. En fait, il rassemble, c'est ce que tu disais, Philippe, il rassemble les voix qui existaient déjà à l'extrême gauche. Il ne fait pas beaucoup plus, je crois. Hein. Je crois que c'est strictement les voix LO, LCR, enfin, c'est à peu près ça, hein. PC, enfin, pas plus. Et je pense qu'il a fait une grosse erreur, c'est d'avoir mis comme point de mire le score du Front National et de faire plus. Après, il s'est contorsionné pour dire mais oui, mais notre objectif, c'était de faire un résultat de chiffres. Bon, enfin, ça, c'était n'importe quoi. Hein. C'était une grossière erreur. Puis, bon, c'était pas simplement une erreur de pronostic qui montrait qu'il était un peu déconnecté quand même des réalités. C'est une erreur de cible. C'est pas le niveau des pourcentages qui détermine si on bat le Front National ou pas.
Laurent, peut-être un dernier mot sur ce que tout à l'heure j'appelais pompeusement le paradoxe. C'est que on se rend compte quand même que même si l'élection présidentielle se gagne au centre, même peut-être au centre droit, quand même dans la performance de François Hollande, il y a sans doute quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est que bon, les périodes de crise ne sont pas forcément favorables au retour de la gauche au pouvoir. Hein. Généralement, dans la première phase d'une crise, il y a une crispation conservatrice et on préfère garder ce qu'on a et à la limite aller voir les plus prudents et les gardiens de l'ordre. Dans une deuxième phase de la crise, lorsqu'elle s'approfondit vraiment, on a des réactions qui vont plus à gauche. Et je crois qu'il a un petit peu bénéficié de cet effet-là. C'est-à-dire que la crise s'est durcie. Et donc la campagne et le vote s'est déterminé peut-être sur des raisons moins superficielles que celles de 2007 et qu'on est passé un petit peu de la com aux vraies réalités économiques et sociales et ça se retrouve dans un certain nombre de sondages qui ont été faits. On s'aperçoit par exemple que 68% des ouvriers ont voté Hollande au second tour. Bon, donc à un moment donné, on pourrait dire, voilà, on en revient de certaines réalités de catégories sociales, de classes, de programmes politiques. Et si on efface, évidemment, on ne peut pas effacer complètement ça, mais si on efface ce que fait un second tour, le trouble créé par le mouvement d'extrême droite, par Le Pen, on s'aperçoit que dans le second tour, on retrouve des choses plus claires. Et il y a un deuxième chiffre qui est tout à fait intéressant, c'est que Sarkozy ne devient majoritaire dans l'électorat qu'au-dessus d'un revenu mensuel de 3500 euros par personne. Donc ça clarifie les choses, quoi. Il y a un vote de droite qui se fait pour des raisons économiques et il y a un vote de gauche qui se fait pour des raisons économiques.
Aussi pour... aussi. Non, ouais, mais moi, je suis d'accord.
On va terminer peut-être.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Et c'est ce que j'ai ressenti justement quand je parlais du débat. Hein. Bon, alors c'est vrai qu'il y a, Philippe, tu parlais de la question du nucléaire et tout, c'est sans entrer dans le détail, mais il y avait quand même le sentiment de voir quelqu'un qui était pour la France des riches et quelqu'un qui était pour la France des autres. Quoi. Enfin, en tout cas, Hollande a joué cette position-là.
Quoi, il l'a bien joué, d'ailleurs.
Je pense qu'il l'a bien joué. Et c'est en ça, justement, hein, que moi, j'ai ressenti cette différence. Et qu'on retrouve, d'ailleurs, dans les votes. Quoi. Mais je pense à tous les niveaux. Quand on regarde hein, comment, au deuxième tour, on a voté, c'est clair. Hein, si on regarde Arras, par exemple, bon, Hollande est majoritaire, hein, avec un score
57%.
Élevé. 57%. Oui, un petit 57. Mais bon, Sarkozy en centre-ville, à l'hôtel de ville, Beffara, les quartiers favorisés, il est largement en tête. Il y a vraiment un vote très marqué. Quoi. Les zones les plus riches, c'est Sarkozy. Les zones les plus populaires, enfin urbaines, hein, au niveau du rural, là, il ne faut pas regarder de trop près au niveau du rural parce qu'on pourrait être déçu. Mais en tout cas, c'est clair. Et donc, il a réussi quand même, je pense, Hollande, quand même à faire apparaître cette différence. Hein. Sarkozy, le président des riches, d'une certaine catégorie sociale, et lui, hein, qui pouvait permettre à catégorie moyenne, catégorie plus populaire, etc., eh bien, d'y gagner avec son élection.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes fais ce que tu veux. Parlerai moins, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on s'est penché. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, 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 je sais pas, 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 je sais pas, 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 je sais pas, pas.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, toujours libre et sans pub. Guy, le rose a des reflets bleus.
Le rose a des reflets.
Il n'a pas écouté les paroles.
Il
a pas
écouté, mais il connaît, il connaît parfaitement Bachung.
Oui, 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 mais bon, sans doute, hein, sans doute. Hein.
Allez, on aborde la question des enjeux économiques. Au niveau français, l'impact européen est évident. Et
ah bah c'est
l'échelle européenne est...
Là, je crois que là, c'est difficile d'isoler, d'isoler les deux, parce qu'on se rend compte que d'emblée, ce qui va déterminer les marges de manœuvre de la politique française, c'est la question de savoir comment vont se coordonner les politiques économiques en Europe, et est-ce qu'on va rester sous le joug des politiques de rigueur, ou est-ce que on va pouvoir obtenir une réorientation de ces politiques qui donnerait aussi de l'oxygène et des marges de manœuvre au nouveau président et au nouveau Premier ministre et à son gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que on est en plein dedans pour deux raisons. D'abord parce que ces discussions se sont cristallisées autour de la renégociation ou pas du pacte de stabilité budgétaire renforcé, parce que c'était au cœur de la campagne de François Hollande. Monsieur Hollande se trouve plus ou moins contraint d'aller discuter tout de suite avec Angela Merkel. Et puis, il y a le lait qui est de nouveau sorti de la casserole en Grèce. Et donc, ça précipite à la fois l'obligation de penser à des solutions d'urgence, mais aussi de rediscuter de la coordination de ces politiques économiques. Donc je trouve que là, on est tout de suite à une heure de vérité extrêmement importante. L'élection de François Hollande, l'affaiblissement d'Angela Merkel dans les élections dans les Länder en Allemagne, la situation politique critique en Grèce feront-elles que François Hollande parviendra à desserrer l'étau des politiques de rigueur en Europe et à discuter d'autres choses et autrement. Bon, alors ça, c'est les nouveaux rapports de force qui sont créés. Je trouve que ce qui est difficile à penser en ce moment, c'est oui, mais c'est quoi faire autre chose que de la rigueur aujourd'hui? Et j'ai l'impression que autant les Allemands sont braqués sur des dogmes imbéciles et à courte vue, autant ceux qui contestent ces dogmes et qui veulent mettre autre chose à la place ne sont pas non plus très clairs sur les scénarios et les stratégies alternatives. Parce que quand François Hollande dit « on veut de la croissance », Merkel, évidemment, ne va pas lui répondre « non », ce serait idiot. Mais elle lui répond « bah oui, mais de la croissance sans augmenter les dettes, puisqu'elles sont déjà énormes ». Et elle n'a pas tort de présenter les choses comme ça. Et elle dit évidemment, moi de mon point de vue, la croissance, c'est l'épargne et la compétitivité et la formation et l'aide aux PME et les réformes du marché du travail. Bon. Et puis Hollande, là derrière, moi je ne sais pas trop ce qu'il dit. Parce que qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il peut dire, ben non, on va approfondir les déficits budgétaires pour faire de la relance keynésienne? J'ai tendance à penser, et je suis pas...
C'est pas sa position.
Eh ben non, non plus. Non. Ou alors c'est un petit peu sa position, mais c'est tellement peu sa position qu'on voit bien qu'on peut pas en attendre beaucoup d'effets. Enfin, c'est quelques eurobonds pour financer des infrastructures, c'est un peu plus d'implication de la Banque européenne d'investissement, c'est peut-être un peu de soulagement venant de la Banque centrale européenne. Bon, certes, il est quand même pas du côté de la rigueur, c'est clair, il cherche des issues du côté d'une certaine alternative, mais enfin, je trouve qu'on n'a pas le plan B d'une certaine manière.
Alors bon, il a quand même évoqué des choses, les projets bonds là.
Ouais.
Donc ça, ce sont des émissions. Venant de la Banque Centrale Européenne.
Ah non, enfin, ce serait des émissions de titres de dette venant de l'Europe. De la Commission européenne, ou, enfin, je ne sais pas quelle institution les émettrait, mais enfin, l'Europe, pour financer des grands travaux,
ouais,
des infrastructures. Puis deuxième chose, ils préconisent aussi que la Banque européenne d'investissement, qui est censée financer des projets de développement économique intéressants, elle puisse être davantage capitalisée par des fonds publics pour qu'avec son effet de levier d'endettement à elle, elle puisse aussi favoriser du développement économique. Bon, voilà. Il préconise aussi que...
Qu'elle prête aux États.
Alors, aux États, pas directement, non. Aux projets de développement économique des entreprises, des grandes... soit des PME, des firmes. Ça, je ne suis pas sûr qu'elle prête directement aux États. Là, j'ai un petit trou, mais je crois que non. Donc, c'est pas ça qui sera de nature à rééquilibrer tous les problèmes qui ont été créés par l'euro, les déséquilibres de compétitivité entre les différents pays européens et a fortiori le problème grec. Donc ça c'est sûrement pas une solution.
Et la réduction de 30% du salaire des ministres, là, ça va pas avoir d'effet, ça.
Oui, non, mais ça, oui, là, je crois que c'est une mesure symbolique, mais les symboles sont quand même importants. Ouais. Hein. Les symboles sont importants en politique, surtout si après on veut nous demander à nous tous la réduction de 30%.
Non, je pense que c'est pour les plus gros salaires, les gros revenus.
Alors voilà, il y a de quoi, il me semble, être très inquiet. À la fois, je pense que nos dirigeants sont au pied du mur, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont les futures cartes en main. On commence à entendre des petites choses et des petits tremblements du côté, bizarrement, de ceux, c'est toujours un peu ça l'histoire, de ceux qu'on attendait le moins sur ce registre, dans l'entourage du ministre des Finances allemand. On a entendu dire que oui, peut-être quand même en Allemagne, il faudrait que les salaires redémarrent pour redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux salariés allemands, pour redonner de la demande globale en Europe, pour favoriser la compétitivité des autres pays européens. Il y a même eu dans l'entourage du président de la Bundesbank des petits sifflets pour dire que peut-être l'Allemagne pourrait supporter un petit peu plus d'inflation. Alors quand vous entendez des Allemands dire ça, vous vous dites, ils ont lu le monde diplomatique, n'est-ce pas, sur les deux dernières années, mais c'est très étonnant. Donc y a quand même des choses qui sont un petit peu en train de craquer, mais comme toujours, avec un retard phénoménal, et qui fait qu'à mon avis, y aura malgré tout des risques énormes d'implosion de la zone euro dans les 6 mois à venir.
On parlera tout à l'heure avec Guy des mouvements sociaux, mais je voulais juste au passage citer un article de Libération ce mardi là, qui disait que la solution viendrait peut-être des syndicats allemands, parce qu'apparemment il y a des grosses mobilisations en cours en Allemagne sur la question des salaires. C'est peut-être ça qui va faire qu'en Allemagne ça bouge. Mais la question que je voulais te poser, Laurent, c'est quelles seraient pour toi non pas les mesures alternatives, mais quelles seraient les mesures, les points d'accord qui permettraient d'être gagnés par Hollande face à Merkel, qui marqueraient le point de rupture. C'est-à-dire qu'on passe à une autre politique. Non pas qu'on déploie une nouvelle politique, mais que on est sur l'aiguillage, quoi.
Moi, j'ai tendance à penser que...
C'est le rôle de la BCE.
Rien de ce que demande Hollande, à part justement le rôle de la BCE, rien de ce qu'il demande n'est finalement inacceptable par Angela Merkel, parce que justement, ça ne constitue pas une véritable remise en cause de la politique économique européenne. Je rappelle que Hollande ne veut pas rediscuter du pacte de stabilité budgétaire renforcé. Tout ce qui est dedans, il l'accepte. Il veut simplement une espèce d'addendum pour une stratégie de croissance. Alors il dit, ça c'est renégocier le pacte, mais en fait c'est pas renégocier le pacte, c'est lui remettre un chapeau de croissance. Et je pense qu'ils peuvent tomber d'accord sur un grand nombre de mesures, sauf peut-être sur le rôle de la BCE, que Hollande voit beaucoup plus impliqué dans le financement des dettes publiques, voire dans le financement direct des États. Ce qui, là pour le coup, est effectivement du point de vue doctrinal très dur à avaler pour l'Allemagne. Mais sur ce qui me paraît être la seule solution possible aujourd'hui pour sortir l'Europe de l'ornière, qui est justement cette politique de réflation salariale à grande échelle, faire augmenter les salaires en Europe très rapidement et à des rythmes différenciés en fonction des écarts de compétitivité acquis par les pays. Les pays qui ont des excédents commerciaux peuvent se permettre une croissance des salaires plus rapide que les autres. C'est la seule politique possible, c'est la seule façon d'alléger le fardeau des dettes, de recréer... pas de manière magique d'ailleurs, mais de recréer plus ou moins de la demande globale en Europe et de lutter contre les scénarios de déflation. Bon. Et ça, ce serait ça le vrai signal d'une véritable autre politique. Mais ça oblige à remettre en cause le rôle de la politique monétaire dans la stabilité des prix, le rôle de la BCE dans la fixation du taux de change, parce qu'il faudrait accepter une baisse rapide du taux de change. Et là, on voit que non seulement il y a des oppositions doctrinales, mais il y a aussi des oppositions d'intérêt national. Par exemple, l'Allemagne n'a pas intérêt à une chute de l'euro et donc pourrait tout à fait bloquer un scénario par pur intérêt national.
Comme tu le dis, hein, Laurent, on est effectivement là dans des questionnements de doctrine, mais vu vraiment de tout en bas, en dessous de la table où il y a les micros, où vous êtes en train de remettre vos fils. Non, vu de tout en bas,
grâce à Guy, on a l'image.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire.
Non, mais c'est bon, je vous regarde et puis il me regarde pas, donc je me demande s'il écoute parce que je vais lui poser une question pertinente.
Je te signale que t'as encore rien dit.
Bah oui, justement, j'attends que tu sois concentré.
C'est tout un art.
C'est réglé, les fils.
Que tu m'écoutes. Donc, vu d'en bas, hein, de très bas. Je pense à ceux qui ont pu voter Hollande, des salariés, hein, des ouvriers, des chômeurs, des précaires, etc., en se disant on a voté pour quelqu'un qui a fait passer ce dont on parlait tout à l'heure, un discours. Il y avait le président des riches, moi je suis pas le président des riches, donc quelque part qui pouvait laisser entendre que au niveau de la répartition des richesses, sans toucher au volume de richesses créées, etc., mais au niveau de la répartition des richesses, on pourrait envisager quand même une société plus juste. De toute manière, son leitmotiv, c'est aussi la justice, hein, la jeunesse, la justice. Et est-ce que là, il y a pas quand même des possibilités, des choses à faire? Alors, je sais pas, hein, par une réforme fiscale, par la question du partage du travail, etc. Est-ce qu'il y a des pistes qui sont ouvertes?
Le mandat va être inauguré par ce qu'on pourrait appeler un paquet fiscal, mais bon, ça ferait trop écho à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, mais qui est quand même une augmentation des prélèvements fiscaux de l'ordre de 29 milliards d'euros, ce qui est tout de même significatif, hein, c'est à peu près un tiers de notre déficit budgétaire. Ces prélèvements, c'est quand même une augmentation de l'impôt sur la fortune. Alors évidemment, une augmentation par rapport à ce qu'avait détricoté Sarkozy, c'est une augmentation aussi des cotisations sociales des entreprises, c'est une augmentation de l'impôt sur les sociétés, en particulier les grandes sociétés, c'est une diminution des niches fiscales de l'impôt sur le revenu. Donc il y a quand même un certain nombre de mesures fiscales qui, en approchant les 30 milliards d'euros, peuvent pas être qualifiées de trop tièdes. C'est pas complètement la révolution fiscale, oui, non plus. Mais si on se demande est-ce que ça va être perçu par la France d'en bas, comme tu dis, la population, comme on dit aujourd'hui, dans le quotidien des Français, etc., je pense que non. Je veux dire, on le verra dans les statistiques, on verra les indices d'inégalité diminuer, mais pas de manière suffisamment sensible pour que ça change le sort des gens. Et ce que je crains, personnellement, c'est que ce qui est nécessaire, hein, il faut le faire, ça. Mais ce que je crains, c'est que ça se joue sur un autre terrain beaucoup plus rapidement pour François Hollande, c'est que dès la rentrée, septembre-octobre, on va voir débouler le spectacle. Des fermetures d'entreprises, des licenciements massifs, des établissements qui sont revendus ou qui vont fermer, et toutes des choses qui avaient été mises sous le coude par le patronat pour ne pas gêner Sarkozy, et qui va créer le spectacle de même avec Hollande, c'est comme avant. C'est-à-dire, même avec Hollande, les entreprises ferment pour aller s'installer ailleurs, etc. Et là, je ne suis pas sûr du tout que le PS soit armé pour produire une réponse. Et donc, ça va être très tendu, à mon avis, socialement et politiquement, à la rentrée, parce que c'est là que véritablement, que se trouve la perception du quotidien, si j'ose dire, par les Français. Et là, moi, je crois qu'ils n'ont absolument pas de stratégie pour y répondre.
Alors justement, la question des mouvements sociaux, Guy, en Europe.
Oui, on est parti là d'une analyse par rapport à la France. Est-ce qu'il y aura des choses à la rentrée? On verra. Hein. Les positions là actuellement syndicales, elles sont vraiment très très en attente. Hein, même si elle a conscience de la nécessité de maintenir une pression sociale, mais jusqu'où ça ira, ça va dépendre effectivement du contexte, hein, du contexte de l'austérité, la poursuite de ces politiques, etc. Alors, bon, Jean, tu l'as dit, hein, ça bouge un petit peu, ça bouge en Europe. Bon, on a fêté là en Espagne, enfin, les indignés ont essayé de relancer la machine, ça fait un an, hein, qu'ils ont lancé le mouvement. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, on en parle peu, c'est ce qui s'est passé quand même en Grèce, où là, bon, il y a eu de fortes mobilisations sociales, etc., des grèves générales, et donc il y a eu aussi une réponse politique finalement, hein, puisque bon, on n'en a pas parlé ou très peu, mais il y a aussi eu des élections politiques, des élections législatives en Grèce. Et c'est quand même intéressant parce que ça pose la question de quelle démocratie, dans quelle démocratie on vit. Il y a un tumulte récent, hein, où Philippe, tu nous avais fait un petit topo sur la démocratie. Mais c'est quelque part, quand on regarde le premier tour, hein, je vais revenir sur le mouvement social, hein, genre, quand on regarde le premier tour en Grèce, on pourrait se dire qu'à peu de choses près, c'est ce qui s'est passé au premier tour, de l'élection présidentielle. Hein, sauf que Mélenchon, il serait devant le PS, hein, ce qui n'est pas négligeable, hein, bien entendu. Mais bon, mais sinon, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Sauf que nous, on a aujourd'hui un président de la République, et on va avoir un gouvernement, et puis on va avoir une assemblée législative. Alors, et par contre, en Grèce, c'est bloqué. Et je trouve que c'est, ça questionne, c'est vraiment c'est intéressant, hein, je pense. Alors sur la mobilisation sociale, il y a quand même un rendez-vous intéressant. Il y a Hollande qui est aujourd'hui,
ce mardi soir,
hein, mais je ne sais pas combien de temps il va rester avec Angela. Et donc il est en Allemagne, il n'y a pas que Hollande donc, en Allemagne. Je ne sais pas s'il est arrivé, hein, puisqu'il y a eu un petit problème là, au niveau de son avion, je pense. Hein. Non, Jean, t'es pas au courant. Tu sais pas qu'il a été attaqué par la foudre. Hein, il est revenu à Paris et puis apparemment il est reparti. Hein, il est courageux quand même, Hollande, d'aller affronter Angela dans ces conditions. Donc il n'y a pas qu'Hollande hein, qui sera en Allemagne samedi 19 mai. Donc il y a une manifestation, une grande manifestation européenne qui est organisée par un collectif large qui regroupe des organisations syndicales, des associations. Des organisations politiques. Donc c'est une action européenne contre la banque centrale européenne. Ça se passe donc à Francfort, parce que ben, Francfort, c'est le siège de la banque centrale européenne, comme vous le savez, mais aussi d'autres banques et de consortiums puissants allemands et multinationaux. Donc c'est une manifestation européenne contre l'austérité, pour la solidarité internationale et la démocratie réelle. Hein. Donc qu'est-ce que c'est que la démocratie réelle ? C'est sans doute la Grèce peut-être, hein, plutôt que la France. Puisque entre parenthèses, hein, Hollande, quand même, il est président de la République, mais il n'a pas obtenu 50% des votants. Hein. Si on prend en compte les votes blancs, hein, il est à moins de 50%. Donc on a un président qui n'est pas majoritaire au niveau des votants. Bref, donc une manifestation. Alors il y a des départs collectifs. Au niveau de Lille, il y a un départ collectif le vendredi soir. Bon, sur Internet, hein, vous tapez. Alors ça s'appelle Blockupy Francfort. Hein, il faut se mettre à l'allemand maintenant. Europäische Aktionstage, parce que ça commence le 16. Hein. Le 16 mai, il y a plusieurs rendez-vous. Blockupy Francfort. Hein, donc vous tapez ça sur Internet, vous trouverez les rendez-vous. Et donc il y a un départ de Lille. Je pense un départ en quart le 18 au soir. Et puis bon, vous irez comme ça dire bonjour à Angela. Non, je ne sais pas si elle y sera. Hein. Hollande peut-être.
Hein. Angela ou Angela ?
Angela, moi je dis Angela. Hein. Bon, on le dit comme
c'est
on veut. Hein.
Ouais,
Angela, c'est vrai. Ouais. Ce serait plus sympa quand même. Hein.
Le magazine libre et sans pub, c'est Radio PFM sur le 99.9. Et on termine avec un éclairage philosophique. On a pris un peu l'habitude dans ce magazine Tumulte, Philippe, et cette fois-ci c'est sur la notion de dette, tiens.
Oui. Alors, donc sur la, évidemment, bon, la notion de dette, on voit bien l'actualité. Hein, il n'y a pas besoin de faire des dessins là-dessus. Alors sur ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, bon, quand on entend le discours sur la dette, l'endettement, la nécessité de rembourser la dette, etc., on voit bien que il y a un double aspect qui apparaît immédiatement. C'est à la fois une dimension économique, quoi, on a prêté, il faut être remboursé, donc de circulation et d'échange. Mais il y a évidemment aussi tout de suite un discours moral qui apparaît en filigrane, hein, y compris d'ailleurs parfois sur une version en disant que ceux qui sont endettés, bon ben voilà, ils sont coupables d'être endettés, c'est pas bien ce qu'ils ont fait et maintenant il va falloir changer de comportement. Alors donc c'est ça en fait qui est je crois l'élément intéressant dans la notion de dette, c'est que la notion de dette renvoie à ces deux dimensions-là, c'est-à-dire à la fois l'économique et les échanges économiques, mais aussi la dimension de l'impératif moral, quoi. Hein, et d'ailleurs, le mot dette, en fait, hein, ça, c'est la racine, le débéré en latin, c'est-à-dire c'est le devoir, quoi. Et le devoir, évidemment, c'est aussi ce que l'on doit au sens moral du terme. Alors, si on regarde la définition même de dette, bon, de la notion, d'une part, c'est une dette, c'est un contrat, hein, et qui porte sur entre deux personnes, deux groupes, enfin bon, et qui ça porte sur un échange, mais qui s'étale dans le temps. Hein, c'est-à-dire que ce qui est très important, évidemment, dans la notion de dette, c'est que je prête, tu me rembourses, mais entre les deux, hein, il se passe du temps. Bon, par exemple, à ce moment-là, beaucoup de choses d'ailleurs peuvent relever de cette notion de dette. Hein. Après tout, un contrat de travail, je travaille et en échange, je finirai par recevoir un salaire. C'est aussi quelque chose qui renvoie à ça. Bon. Autrement dit, la dette, c'est un contrat et c'est basé donc sur une forme de confiance et sur la question de la promesse, hein, c'est-à-dire que je te prête, mais tu t'engages, hein, à me rembourser et je m'engage sur l'avenir à rembourser mes dettes. Bon. Et donc du coup, on voit là apparaître la dimension morale, c'est-à-dire que la notion de dette à ce moment-là renvoie au fait que une personne a le sentiment est obligée, hein, ou a le sentiment d'être obligée de rembourser de rendre à l'autre quelque chose de même valeur. Bon. Et par exemple, je ne sais pas, c'était le Mauss, donc l'anthropologue là, qui travaillait sur le don, hein, le don qui est fait dans les sociétés primitives exige en retour un contre-don à un moment donné, c'est-à-dire celui qui reçoit le don, il se sent obligé de rendre. Bon, donc il y a une obligation, il y a un sujet moral en fait qui apparaît avec la dette. Autrement dit, si je suis endetté et que je me sens obligé, on passe d'un contrat, c'est-à-dire d'un échange entre des individus et un échange objectif, on va dire, à un sentiment subjectif, hein. Et au fond, à quelque chose, voilà, je me sens obligé de rendre quelque chose, alors, de la même valeur, hein. Et si je ne rends pas, je me sens fautif. Bon. Donc, cette intériorisation, hein, c'est bien ça qui, évidemment, ça pose une autre question, c'est qu'est-ce que c'est la même valeur, hein. Bon. Alors ça, on va y revenir. Alors ça, c'est bon. Il y a un philosophe qui a beaucoup réfléchi, très important sur ces questions-là, sur la question du rapport entre la morale et la dette. C'est Nietzsche, hein, dans un de ses grands textes qui s'appelait La généalogie de la morale, où il travaille justement sur comment est né chez les hommes, comment est né le sentiment moral. Et il dit au fond, le sentiment moral, hein, les sentiments moraux, le fait de se considérer comme un sentiment, comme un sujet moral, qui a des obligations, etc., c'est pas du tout naturel chez l'homme. Hein. L'homme, il est oublieux par nature, comme n'importe quel animal, etc. Donc, il fait quelque chose, et puis on lui prête quelque chose, mais lui, il n'y pense plus. Et donc ça, voilà. Donc il a fallu, en fait, construire, hein, un homme, quelqu'un qui puisse promettre, c'est-à-dire s'engager. Hein. Et ça, en fait, Nietzsche dit en allemand, par exemple, la notion de dette, hein, et la notion de faute, ça a la même racine, hein, c'est le même mot, c'est Schuld, bon, les Schulden, c'est les dettes. Bon. Donc on voit bien, il dit en fait, le sujet moral, hein, la relation morale, elle est née du fait que, justement, de ce rapport de créancier à débiteur, de ce rapport de dette. Hein, et qu'on a dû essayer d'apprendre aux hommes, hein, à rembourser, c'est-à-dire à promettre et à s'engager. Hein, parce que dans la dette, effectivement, c'est la question du temps qui est centrale. On me prête, hein, et je dois promettre que je vais rembourser et tenir ma promesse, donc ne pas l'oublier, etc. Et alors ça, dit-il, ça s'est fait de manière extrêmement violente et cruelle, hein, parce qu'il a fallu châtier celui qui oubliait, etc. Donc il décrit les tortures, les atrocités qui ont eu lieu dans la préhistoire de l'humanité, comme ça, pour faire rentrer dans la tête des hommes, hein, et dans le corps des hommes, quoi, cette notion de promesse et d'engagement dans la promesse. Bon. Autrement dit, il faut pouvoir être digne du crédit qu'on m'accorde, quoi. Mais pour ça, ça ne s'est pas fait sans violence. Donc, du coup, ça veut dire que pour lui, dans cette genèse du rapport de la dette et de la créance, hein, du créancier et du débiteur, Il y a un rapport de pouvoir, c'est-à-dire il y a un rapport de domination. Hein. Donc il dit que d'une part que le sentiment de la faute, ça renvoie hein, au rapport qu'il dit le plus primitif entre les personnes, hein, c'est-à-dire créancier et débiteur, et où la personne, pour la première fois, affronte une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a un affrontement dans cette affaire. Hein. Et deuxièmement, celui qu'on doit obliger à rembourser, il faut le châtier, c'est-à-dire que c'est bien un rapport de punition ou de châtiment, c'est-à-dire que c'est bien un rapport de pouvoir qui va instaurer le sentiment d'obligation morale, etc. Et donc, au départ, il y a bien ça, c'est que celui qui est le créancier, hein, celui qui fait crédit, eh bien, il instaure un rapport où il va pouvoir châtier hein, celui qui ne tient pas sa dette. Donc un rapport, finalement, Nietzsche, du droit des maîtres, hein, celui de punir, de châtier, de faire souffrir, etc. Alors, du coup, hein, on voit bien que le rapport comme ça de la dette, créancier-débiteur, hein, ça renvoie à trois éléments, c'est-à-dire c'est le temps, hein, il y a du temps dans l'échange et le contrat, c'est pas immédiat, bon, évidemment, si je me contente d'échanger dans un troc deux objets, c'est immédiat. Hein, avec la dette, rentre en compte, hein, avec le rapport de dette, rentre en compte la dimension du temps. Hein, et inscrire le temps, pas simplement dans le contrat, mais dans les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles se sentent obligées, par la promesse, hein, à tenir et à rembourser. Bon. Et du coup, évidemment, ça introduit aussi le fait que celui qui est endetté, celui qui se sent endetté, hein, il est aliéné, c'est-à-dire qu'il est dépendant d'un autre. Et il est sous la domination et il est en rapport à un autre. Et même son avenir, hein, finalement, va être déterminé par son rapport à l'autre. Bon. L'autre étape de Nietzsche, bah, c'est que la mauvaise conscience, hein, toutes ces notions morales, c'est-à-dire la mauvaise conscience, le fait de se sentir coupable, la responsabilité, le fait de répondre, etc., hein, c'est quelque chose qui justement est une intériorisation progressive de ce sentiment de la dette. C'est-à-dire que finalement, ah ben, j'arrive pas à faire ce qu'il faut, donc je me sens coupable. Donc c'est une cruauté qui n'est plus exercée directement par l'autre, mais qui est intériorisée, etc. Bon. Alors, si on en revient, si on vous revient maintenant à... Ça éclaire un certain nombre de choses, parce que dans le rapport de l'endettement, hein, tel qu'on le voit aujourd'hui, etc., que ce soit l'endettement des individus ou l'endettement de la dette souveraine, même l'endettement des États, etc., on voit bien que c'est pas simplement une question de technique d'échange, c'est bien des rapports de domination hein, entre celui qui fait crédit et celui qui doit rembourser et qui doit se comporter pour pouvoir rembourser. Hein, parce que dans le fait de rembourser ses dettes, il y a ça. C'est-à-dire que Nietzsche le disait déjà, il disait... Bah, si j'obtiens pas l'argent, il faut au moins que j'obtienne une partie du corps, le comportement, etc. Et là, on voit bien que celui qui est endetté, il doit se comporter d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il doit éviter de faire trop de dépenses, il doit arrêter de faire n'importe quoi. Enfin, c'est comme ça que parle, en tout cas, celui qui lui demande le remboursement. Hein. Il doit couper dans les dépenses, etc. etc. Donc, l'élément de l'endettement devient un élément du quotidien. Hein. C'est vraiment intériorisé dans les sujets. Bon, alors ça, on pourrait le... Là, on n'a pas le temps d'en parler, mais on pourrait montrer que on trouve ça dans des tas de dimensions aujourd'hui de la vie, quoi. Hein. Si on considère que je suis aidé, par exemple, quand je suis dans telle ou telle situation sociale et que du coup j'ai une dette vis-à-vis de la société, bah, je dois faire preuve que je me comporte bien, que je cherche bien un emploi, que etc. etc. Donc ce sera finalement, à un moment donné, le paiement de la dette, c'est pas simplement un retour de valeur économique. Hein, mais c'est aussi un comportement. Et on voit bien que là, il y a bien la question du rapport de domination. Hein, c'est-à-dire, je dois me comporter de manière comme on me dit de le faire. Quoi, hein. Bon. Et enfin, du coup, ce peut-être le dernier élément, c'est la question et un peu les paradoxes du crédit. Hein. Là encore, on voit bien que le crédit, bon, on me fait crédit, etc., on voit bien que le paradoxe du crédit, c'est que le crédit, c'est aussi un acte de foi. Hein, c'est aussi la confiance. C'est-à-dire donner ou faire crédit, c'est prêter à quelqu'un hein, et on lui fait confiance, il pourra rembourser. Et on pourrait avoir l'impression que le crédit, au moins, bon, bah, c'est plus humain. Hein. Je fais confiance à quelqu'un et... Et il va me rembourser. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Parce que le paradoxe, c'est que si je veux qu'on me fasse crédit, ben je suis presque obligé de mentir. de cachets, de, etc. Alors là, il y a l'exemple de la Grèce, on pourrait en parler justement là-dessus. Hein. Les Grecs qui, pour obtenir, pour qu'on leur fasse crédit, maquillent un certain nombre de comptes, etc. Avec l'aide d'ailleurs de grandes institutions. Bon. Donc ici, on voyait que la confiance, en fait, hein, sur laquelle est basé le rapport de dette, de crédit, etc., la promesse, etc., se transforme ou bascule immédiatement dans son contraire, c'est-à-dire le mensonge, l'hypocrisie ou même la défiance. Et enfin, dernier point, hein, là-dessus, bon, la promesse, donc le crédit, c'est la promesse, c'est l'engagement sur un avenir, hein, qui promet d'ailleurs normalement l'ouverture de possibles et la richesse plus tard. Hein. Et en réalité, on voit que là encore, il y a le même renversement, c'est-à-dire que à un moment d'endettement, hein, finalement, eh bien, je dois tellement rembourser que je perds toutes mes richesses et que justement, je n'ai plus d'avenir. Hein. C'est-à-dire que la domination par la dette, hein, ou par l'endettement, hein, ou le rapport de contrôle que ça exerce, c'est un contrôle sur le temps. Hein. C'est-à-dire c'est ça aussi qui est très, très important, c'est que finalement, de la même façon, à partir du moment où on a plein de gens qui sont endettés ou d'États qui sont endettés, ben on contrôle leur avenir, leurs possibles, leurs perspectives et l'ensemble de la vie sociale.
Alors, quelques réactions sur cet éclairage. Laurent, est-ce que tu as retrouvé tes petits de l'économie? Parce que finalement, le prêt en économie, c'est un élément essentiel de...
Ah bah c'est une
incontournable du développement.
C'est une des modalités, quatre modalités de circulation des biens. Il y a l'échange, il y a le don, il y a le prêt et il y a le partage. Bon, donc c'est une des quatre grandes modalités de circulation des biens. Et effectivement, c'est la finance et le prêt, c'est une des conditions du développement économique. Mais ce que je trouve très bien dans ce que Philippe a dit, c'est finalement l'effort de Nietzsche qui est d'essayer de résoudre quand même un mystère anthropologique, parce que quand même cette affaire de reconnaissance de dette, le fait que voilà, la personne qui a reçu le prêt se sent redevable, obligée, que sa conscience va être sur ses talons, son surmoi va le torturer, c'est quand même un mystère anthropologique cette affaire. Et la réponse de Nietzsche, finalement, je la trouve assez proche de ce que pourraient peut-être penser les économistes, c'est-à-dire que c'est par la démonstration des violences qui sont faites à ceux qui ne remboursent pas que naît le sentiment de la faute. Mais il y a peut-être aussi que ce sentiment de la faute, qui est absolument nécessaire à mon avis au fonctionnement, je n'en fais pas l'apologie, hein, mais il est complètement fonctionnel, il vient aussi, pour une part, du fait que pendant très longtemps, et je crois que c'est encore vrai maintenant, pendant très longtemps, à part les rois ou les empereurs, et puis des très grands marchands, qui eux s'endettaient pour des raisons qu'on comprend, faire fonctionner l'armée ou faire fonctionner des expéditions commerciales, à part cela, ceux qui s'endettaient, c'était les pauvres. Et ils s'endettaient vraiment pour... même pas pour boucler les fins de mois, quoi, pour réussir à survivre. Or, ça voulait dire qu'eux étaient immédiatement dans une relation de dépendance par rapport aux créditeurs. C'est-à-dire qu'ils devaient trouver quelqu'un qui leur fasse la faveur d'un prêt. Et ils allaient en être totalement dépendants de ce prêt. Et donc, c'est une position humiliante, enfin, d'une humiliation énorme, de se mettre dans une relation qui va être d'emblée asymétrique et mettre un être humain complètement, on pourrait dire, de sa propre volonté, sous la domination de l'autre. Bon. Et je crois que la culpabilité vient sans doute de là, d'être incapable de pourvoir par soi-même à ses propres besoins et d'être obligé d'aller demander à l'autre. Bon. Alors on va dire, mais oui, mais la relation n'est pas si asymétrique que ça parce que vous allez le rembourser. Et lui rendre. Mais ça, ce serait vrai dans le don contre don dont tu as parlé, effectivement. Oui. Dans le don contre don, on est sur un plan d'égalité parce qu'on rend quelque chose dont l'autre a besoin. Mais là, quand vous allez rendre votre prêt, vous n'allez pas du tout l'aider, votre créancier, d'une certaine manière. Vous ne lui rendez pas quelque chose dont il a besoin pour vivre.
Donc, Jean, tu as compris, il ne faut surtout pas prêter d'argent, quoi, en fin de compte.
Et donc, tu as raison de dire, ce qui est fondamental, c'est la relation de domination.
Non, attendez, il nous reste juste une minute.
Moi, j'ai une question.
Le potlatch, c'est pour Guy.
Voilà, j'ai une question, mais je pense que c'est peut-être une piste de réflexion pour un prochain rendez-vous. C'est à t'écouter, Philippe, je me dis, donc, si on ne rembourse pas, d'une manière ou d'une autre, la dette, on ne peut pas l'annuler, quoi. Une dette, ça s'annule jamais, en fin de compte, si elle n'est pas remboursée.
Ah, bah si, on peut justement ne pas la rembourser en l'annulant. Ah ouais, mais alors c'est une décision c'est une décision forte, quoi.
C'est une transgression, alors.
C'est une transgression, voilà. Peut-être allez, parfois en faut-il.
Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. C'est tous les mardis de 20h à 21h30. Rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h. Et sur le net, radiopfm.com. Salut et à la semaine prochaine.